premier sur l'info, le journal
avec MCM,
présenté par Antoine Samoyo.
Bonjour Antoine, on commence par les titres de l'actualité.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Training Sandra Network, placée en redressement judiciaire. La sulfureuse société de marketing de réseau a été déclarée en cessation de paiement le mois dernier après un redressement par la CPS. Training Sandra Network, qui est déjà visée par une enquête pour escroquerie, je vous le rappelle. Edouard Fritsch exclu du Tahuer A, c'est en tout cas le vote du conseil politique du parti Orange hier soir au domicile de Gaston Floss à Erima. Ce matin, Edouard Fritsch a réagi en annonçant la création de son mouvement politique, vous l'entendrez dans notre journal. Et puis la saison cyclonique s'annonce particulièrement rude en Polynésie. L'Organisation météorologique mondiale s'inquiète du phénomène El Niño. Le phénomène pourrait faire partie des 4 épisodes les plus intenses qui aient été observés depuis 1950. Une inquiétude partagée par les prévisionnistes de Météo France en Polynésie qui avouent ne pas être sereins pour la saison à venir. Une saison qui pourrait commencer dès le mois prochain au Fénois. À tout de suite.
Et on démarre avec ce scoop de Radio 1. Training Sandra Network a été placé en redressement judiciaire.
Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la sulfureuse société de réseau de marketing fait parler d'elle depuis son ouverture en Polynésie. Training Sandra Network, je vous le rappelle, propose des formations pour 20 000 à 40 000 francs et fait miroiter un retour sur investissement de 500 000 à 600 000 francs en 6 mois. Un joli tour de magie qui ressemble beaucoup à un système de vente pyramidale. Je vous rappelle également qu'une enquête préliminaire pour escroquerie a déjà été ouverte par le parquet de Papeete au début de l'année contre la société. Training Sandra Network s'est toujours défendu en affirmant être totalement en règle. Et pourtant, le 27 juillet dernier, Training Sandra Network a été placé en cessation de paiement après un redressement par la CPS. Et selon nos informations, la société n'avait jamais déclaré les salariés qu'elle emploie et rémunère. L'affaire s'est donc retrouvée au tribunal mixte de commerce de Papeete la semaine dernière. Et Training Sandra Network a été placé en redressement judiciaire, faute de pouvoir payer la facture.
Politique à présent, on parle évidemment de l'exclusion d'Edouard Fritsch du Tahuer A.
Le conseil politique du parti Orange s'est réuni hier soir au domicile de Gaston Floss à Erima. À l'unanimité des membres présents, le conseil a voté l'exclusion du président délégué du parti Orange, Edouard Fritsch. Et ce matin, le président du pays s'est dit soulagé par cette décision. Il annonce qu'il compte désormais monter son propre mouvement politique. On l'écoute au micro de Vaïté Ourali Pambrin.
Sincèrement, je suis soulagé. C'est vrai que c'est une longue histoire. Mon attachement à ce parti va au-delà de la politique. J'avais de vrais sentiments. Je m'étais beaucoup investi. Et effectivement, je souhaitais que ce soit le président du Tahuer A qui éclaircisse les choses. Cela a mis beaucoup de temps. Ça a commencé en fait 4 jours après mon élection. Et puis je vous parle pas des problèmes des indemnités. Enfin, tout un tas d'histoires pour arriver en fin de compte au résultat que nous avons appris hier soir. Et je remercie le Seigneur d'être libéré, parce que intérieurement, moralement, je ne vous cache pas que cet attachement, je ne voulais pas le rompre parce que j'ai des problèmes avec un monsieur. Depuis un certain temps, ce monsieur se comporte d'une façon intolérable pour moi. Je le savais déjà que j'allais aboutir à cela et j'avais commencé à me préparer. Mon projet, il est autre que d'aller récupérer le Tahuera, c'est fini. Ma vie au Tahuera est terminée, il vient d'en mettre fin. Il faut que je m'organise pour une nouvelle vie et je ne suis pas seul. Nous sommes nombreux aujourd'hui à vouloir aujourd'hui créer notre mouvement et nous battre pour une certaine idée du développement de ce pays, pour une certaine idée de la gouvernance politique, pour une certaine idée du comportement des uns et des autres.
Et de son côté, le président du Tahuer A, Gaston Floss, est revenu ce matin sur les raisons de cette exclusion. Il affirme qu'il aurait très bien pu exclure lui-même Edouard Fritsch, mais qu'il a préféré demander son avis au conseil politique. Quant à la création du mouvement politique d'Edouard Fritsch, Gaston Floss répond tout simplement « chiche ».
Le statut m'autorise à prendre la sanction. Je n'ai pas voulu. Pour l'instant, il n'est pas exclu. C'est le Grand Conseil vendredi qui prendra la décision. Voilà. Le Grand Conseil peut changer d'avis. Il va recevoir sa convocation pour vendredi devant le Grand Conseil. Il pourra toujours venir s'expliquer devant le...
Il n'a pas assez de temps,
mais il connaît tous les griefs qu'on lui reproche. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est cette assignation devant le juge où il dit « Gaston Floss n'est plus en capacité intellectuelle, physique... » Ah, mais il ne le précise pas.
Oui, je vais monter en partie.
Bravo, ben c'est bien, c'est ça qu'il faut faire. Et sortir du Tahuer A, et je disais, c'est un service qu'on lui rend. Jusqu'à présent, non, je suis Tahuer A, j'ai lu son Tahuer A. Là, qu'il monte son parti, puis allez, qu'il y aille. Comme Gaston Tong Song a voté son parti, comme Jean-Christophe Bouissou a monté son parti, comme Tevaro Fritsch a monté son parti. Ils ont tous monté leur parti. Non, je vous dis pas où ils sont aujourd'hui.
Et le Grand Conseil du Tawera devra maintenant valider la décision d'exclusion prise hier soir à Erima. Mais qu'importe la décision finale, Edouard Fritsch est bien décidé à avancer maintenant.
Sur un tout autre sujet, on parle à présent liberté de la presse en Polynésie.
Le tribunal du travail vient de confirmer qu'il n'existait aucune disposition légale garantissant l'indépendance des journalistes en Polynésie. Un vide juridique bien spécifique aux Fénois par rapport à la métropole et même au reste du monde. On écoute les précisions de Cédric Valax sur le sujet.
En 2012, l'élu UPLD Cathy Buillard avait déjà alerté le gouvernement Temaru sur l'absence de protection des journalistes en Polynésie française, une spécificité liée à la compétence du pays en matière de droit du travail. Et en mars dernier, c'est le président du pays, Edouard Fritsch, qui répondait à Reporters sans frontières pour assurer que les lois de la République française garantissaient la liberté de la presse en Polynésie. Hélas, le président du pays ne pouvait pas mieux se tromper. Dans une décision du 27 août dernier, le tribunal du travail de Papeete a précisé pour la première fois l'état du droit applicable aux Fénois en l'absence de texte sur le sujet. Le juge rappelle qu'en métropole, le code du travail prévoit la possibilité pour un journaliste de percevoir une indemnité spéciale de rupture lorsqu'un changement dans le caractère ou l'orientation du journal porte atteinte à l'honneur, à la réputation ou aux intérêts moraux d'un journaliste. Mais le tribunal confirme que ce droit n'est pas applicable en Polynésie française. Le juge pose d'ailleurs une inquiétante règle applicable à la Polynésie, je cite, sans que le tribunal ait à se prononcer sur cette réalité juridique, un propriétaire de journal peut imposer une ligne éditoriale sans autre possibilité pour le journaliste que de s'y soumettre ou de démissionner. Il faut savoir que la même situation s'est présentée en Nouvelle-Calédonie en 2012. Elle a débouché sur l'adoption d'une loi instaurant les prémices d'un statut des journalistes. En métropole, la protection de l'indépendance des journalistes est garantie par la loi Brachard qui date de 1935. Mais il ne s'agit pas que d'une exception française, loin de là. Des dispositions analogues existent également depuis les années 20 en Allemagne, en Italie, en Espagne et dans la majeure partie des démocraties du monde. Plus près de chez nous, l'Australie avait garanti l'indépendance des journalistes dans la loi dès 1917.
Il est midi et 8 minutes. Nous allons marquer une courte pause avant de développer la suite de l'actualité avec Antoine Samoyau.
Radio 1, premier sur l'info.
On reprend ce journal pour parler météo, avec la menace cyclonique qui s'annonce pour la Polynésie, Antoine.
Nous vous en parlions ce matin, l'Organisation météorologique mondiale s'inquiète du phénomène El Niño. L'agence onusienne a annoncé hier que selon la majorité des modèles climatiques internationaux, le phénomène pourrait faire partie des 4 épisodes les plus intenses observés depuis ces 60 dernières années. Une inquiétude partagée par les prévisionnistes de Météo France en Polynésie qui, sans être alarmiste, avouent ne pas être serein pour la saison cyclonique à venir. La responsable du service études et climatologie à Météo France, Victoire Laurent, précise qu'il manque encore quelques éléments pour affiner ses prévisions, mais elle annonce déjà qu'elle n'attendra pas, comme chaque année, la fin octobre pour annoncer des tendances. Et pour cause, la saison pourrait démarrer dès le mois prochain. On l'écoute au micro de Cédric Valax.
Comme chaque année, on est inquiet tous les ans, mais cette année, effectivement, avec un El Niño d'une intensité prévue forte, effectivement, on n'est pas serein. Il faut être prudent, alarmiste. Bon, je voudrais pas tout de suite sortir un mot aussi fort pour dès le mois d'août, parce qu'on a encore quelques incertitudes quant à l'activité cyclonique, mais ce qu'on est sûr, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on vit un phénomène El Niño d'une intensité qui est modérée à forte. Hein. Là, on approche les seuils du fort, et donc avoir des conséquences qui peuvent être inquiétantes pour le climat au niveau de la Polynésie française. Dès qu'on a des éléments qui puissent être transmis, on les transmettra, on n'attendra pas pour cette année, j'attendrai pas fin octobre, hein, parce que effectivement, dans un scénario actuel, on pourrait même avoir des événements qui pourraient démarrer en octobre.
Victoire Laurent qui travaille sur plusieurs hypothèses échafaudées selon différents modèles climatiques. Pas question de faire du catastrophisme, vous l'avez entendu, il est encore trop tôt. Pour autant, deux scénarios l'inquiètent particulièrement puisqu'ils concernent directement le Fénois.
Il y a deux scénarios qui nous intéressent et qui nous inquiètent. Hein. C'est le scénario d'une activité cyclonique qui peut être présente et surtout démarrer au niveau des Marquises, et une activité cyclonique qui pourrait démarrer à l'ouest de la Polynésie. On est plus inquiète pour celle qui va démarrer sur les Marquises, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on surveille un peu cette zone, parce que bon, ça a des conséquences beaucoup plus importantes est beaucoup plus grave, notamment pour les Marquises et les Tuamotu et la société. Sur l'ouest, en fait, on a une route qui est un peu privilégiée, mais qui reste entre Tahiti et les Australes, et qui est, on va dire, qui est moins dangereuse. Les deux sont dangereuses, mais celle qui nous inquiète le plus, ça serait de celle qui pourrait naître sur les Marquises.
Microéconomie à présent, l'ADI organise sa sixième semaine du microcrédit.
Et c'est jusqu'au 4 septembre. L'ADI, qu'on ne présente plus, donne donc cette semaine l'occasion pour les porteurs de projets de venir se renseigner sur un financement éventuel, mais aussi d'obtenir des conseils sur les démarches à suivre pour la création d'entreprises. Au premier semestre 2015, l'ADI a financé 376 personnes pour un coût de 149 millions de francs. Johan Capmas, le délégué territorial pour l'ADI, explique que l'aide financière apportée par l'ADI donc débute à 12 000 francs et monte jusqu'à 1 200 000 francs. Ceci pour l'achat de matériel, de stock ou pour constituer une trésorerie.
Ici sur le Fénois, on a une fourchette, on va dire moyenne, d'intervention qui est de l'ordre de entre 300 et 400 000 francs pour un premier crédit. Sachant qu'à l'ADI, en termes de fonctionnement, on a plutôt tendance à privilégier la progressivité, c'est-à-dire un premier financement pour démarrer l'activité, la tester, et un second pour développer, voire un troisième et un quatrième derrière. L'idée, c'est vraiment de pas trop financer la personne au début, parce que c'est notre responsabilité de pas les surendetter. C'est ça le danger aussi avec le microcrédit. D'où l'idée de pouvoir commencer de manière progressive avec un premier test d'activité. Dès qu'on a des revenus un peu plus solides et qu'on a les reins un peu plus solides, on est en capacité d'affronter une mensualité un peu plus grande. On peut réinvestir avec la personne. Voilà. On est là dans la durée avec les personnes.
Et cette année, la semaine du microcrédit est dédiée à des secteurs traditionnels, l'agriculture, la pêche et l'artisanat, avec la présence du service du développement rural, le SDR, du service de la pêche et de la chambre d'agriculture et de pêche Lagonnaire.
C'est tout simplement, puisque c'est les secteurs d'activité traditionnels sur lesquels les personnes, de par l'apprentissage familial, une maman qui a appris à sa fille à coudre, un papa qui lègue à son fiston du coup la terre, qui leur permet rapidement de basculer sur une activité, de pouvoir du coup faire pousser de terre littéralement des produits, les vendre, générer du revenu et rapidement améliorer leur situation. Donc c'est aussi des activités dans lesquelles les barrières administratives ou réglementaires sont peut-être les moins compliquées, où on a le moins de besoins financiers, on va dire, au démarrage. Et pour autant, c'est des choses qui sont très variées, qui peuvent être rémunératrices et qui peuvent permettre aussi de basculer sur d'autres activités.
Johan Capmas qui était interrogé par Valentine Bluet. Je vous le rappelle, la semaine du microcrédit, c'est donc jusqu'à vendredi. L'ADI que vous trouverez dans la passe Liberty à Papeete. Il est 12h14.